9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Dominique Martre.
Bonjour.
Merci d'être là ce dimanche matin, vous aussi à Beurre FM et en direct pour nous présenter le titre de votre ouvrage. La Kabylie en partage, en sous-titre Dans l'intimité des femmes. C'est un ouvrage qui a été préfacé par Tassadit Yassine. C'est un entretien avec Leïla Sebar et Claudine Vassas. Ce livre apparu aux éditions Sans Nom, édition en France, et aux éditions Coucou en Algérie. C'est dire que nous allons parler de France et d'Algérie avec vous. Nous allons parler de votre histoire, cette Kabylie en partage, vous nous l'offrez, et surtout c'est une Kabylie que vous avez vécue. Je vais vous présenter. Tout d'abord, vous avez suivi un cursus de lettres puis d'ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez été enseignante, journaliste comme Étienne. Vous êtes devenue consultante en formation et communication, ce que vous faites encore aujourd'hui. Et vous avez cette longue expérience d'écriture. Vous avez publié un premier roman, un premier récit dont on parlera tout à l'heure. Mon enfant en terre lointaine, une adoption ouverte, qui était paru il y a quelques années. Enfin, vous avez réalisé des articles de presse, des dossiers de presse sur des journaux différents, des rédactions de travaux universitaires. Cet ouvrage que vous nous présentez, La Kabylie en partage, est une restitution de votre vie en Algérie, une partie de votre vie en Algérie essentielle, puisque vous nous la livrez là, et elle est cette période où... Dans les années 70, vous partez en Algérie pour un poste d'enseignante, en Kabylie précisément, au titre de la coopération. Vous vous rappelez de cette période? Quand vous écrivez ce livre, on va en parler longuement, vous nous racontez au travers finalement un journal que vous avez écrit, plus de 1000 pages, hein, je crois, de votre vie en Algérie comme enseignante. Un journal, ça reste dans les tiroirs et puis ça réapparaît à un moment donné. L'histoire ressurgit, votre vie en Algérie ressurgit. Vous vous souvenez du déclic qui a fait que dans ces années-là, vous partez en Algérie, quelques années après l'Algérie nouvelle, l'Algérie indépendante qui se construit, et vous décidez de partir en Algérie?
Alors j'ai suivi mon mari à l'époque parce que j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Et pour moi, c'était une aubaine parce que il voulait...
Votre mari est médecin?
Il est médecin, voilà. Il terminait ses études de médecine et il voulait faire son service militaire au titre de la coopération. Et moi, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. On ne savait pas où on allait atterrir. C'était en Afrique. Et puis, ça a été, chez Dalla. Et tout de suite, moi, j'ai dit, bien sûr, j'y vais. Et c'est après que j'ai eu un poste, en fait, d'enseignante, droit commun, moi, pour le coup, à chez Dalla. Et j'étais trop contente de pouvoir découvrir, moi qui venais de Bretagne, un pays que je ne connaissais absolument pas.
Vous restez une année, vous commencez cette première année, enfin vous avez déjà été enseignante en France, hein, deux ans vous étiez enseignante en France, vous partez en Algérie, vous partez en Kabylie, à Mchala c'est Mayo, on va l'appeler comme ça, puisqu'autrefois c'est aussi dans cette région qu'on appelait Mayo. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous confrontez à une réalité qui est loin de votre histoire, qui est loin de la Bretagne. Il faut enseigner le français dans un pays où la langue française existe de toute façon, mais il faut aussi apprivoiser les élèves, il faut apprivoiser la société algérienne que vous ne connaissez pas.
Et justement, j'ai été tout à fait agréablement surprise, parce que moi j'arrivais avec une envie de connaître, de découvrir. Donc déjà, en arrivant, rien que les montagnes, les oliviers, le Djourjora, tout ça, c'est très dépaysant. Mais l'accueil des gens, et pour moi, enseigner, ça a été quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est par le biais d'une de mes élèves que je suis rentrée dans les maisons, et puis les autres ont suivi, et j'ai tout de suite été invitée, et j'ai
accueilli
pu côtoyer...
Ah
oui, bien sûr, et voilà. Et vous demandiez le déclic de l'écriture, finalement, ça a été instantané, parce que j'avais d'entrée de jeu tellement l'impression de vivre des choses absolument extraordinaires pour moi, de découvrir tant, j'écrivais tous les soirs, en fait. En fait, au début, c'était des lettres que j'envoyais à mes parents. Et puis, comme j'ai vu que ça les intéressait beaucoup, que certaines circulaient auprès des amis, etc., j'ai écrit un journal, en fait, et j'ai envoyé à ma mère mon journal toutes les semaines. Et elle, scrupuleusement, elle gardait, en fait, toutes ces pages. Et ouais, c'est pour ça que j'en ai plus de 1000 que j'ai retrouvées en arrivant. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire là-dessus, parce que c'est probablement une expérience qui m'a déterminée complètement et qui a été bouleversante dans ma vie.
Bien sûr.
Et qui m'a changée complètement.
Ouais. C'est une transformation pour vous, une transformation pour eux aussi, on y reviendra. Dans votre livre, La Kabylie en partage, sous-titre dans l'intimité des femmes, donc on parlera beaucoup de femmes dans notre rencontre. La préface de Tassadit Yassine est intéressante parce que elle, et puisque vous écrivez aussi, hein, dans la première partie, c'est toute l'historique de l'Algérie, la construction de l'Algérie. Ça aussi, c'est important de poser l'Algérie dans sa généralité, et ensuite d'aller à l'intérieur, au plus près des hommes et des femmes qui sont l'Algérie.
Oui, mais alors c'est par le biais des femmes que j'ai effectivement rencontré l'Algérie, et donc particulièrement la Kabylie. Mais c'est après, en fait, que j'ai beaucoup lu, c'est après, quand je me suis dirigée vers l'ethnologie, que j'ai...
Il fallait donner une partie historique à...
Je me suis intéressée, je me suis rendu compte que c'était un... Enfin, je le savais, mais je savais pas trop ce que ça représentait. J'étais juste dans l'émotion de me dire, la guerre d'Algérie a été... voilà, hein, l'opération jumelle, tout le monde s'en souvient là-bas, il y avait les arbres napalmés, etc. Et moi, j'étais juste dans la reconnaissance que les Kabyles nous accueillent bien, alors que la guerre avait été mais aussi cruelle, aussi dévastatrice. Donc, c'est beaucoup plus tard, en fait, parce que j'ai commencé à écrire sur les récits de femmes. Au début, c'était vraiment les femmes qui m'intéressaient. Mais après, effectivement, je me suis rendu compte que dans mon journal, j'avais tellement écrit de choses qu'il y avait vraiment un matériau ethnographique intéressant, et c'est pourquoi je me suis dirigée vers l'ethnologie, et donc que Louis de Vassas m'a accompagnée là. Et c'est en allant en lisant beaucoup, bien sûr, toute la littérature de la colonisation, mais en allant aussi à Aix-en-Provence, dans les archives, etc., voilà, que j'ai trouvé des tas d'éléments, en fait, vraiment intéressants sur la création de ce village de colonisation.
Et finalement, les femmes dans le quotidien aussi se souvenaient, elles vous racontaient aussi la colonisation?
Alors, les femmes, les hommes, tout le monde. En fait, oui. Finalement, mon récit, il est tissé justement de tout ça. Et c'est d'ailleurs, du coup, ce qui le rend, je pense, hein, qui restitue la vie de cela, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a chacun, en fait, s'exprimait, les histoires n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Et mon récit est tissé de tout ça aussi. Alors, les femmes, mais les hommes, puisqu'après, je les ai retrouvés beaucoup plus tard, les hommes, dans les années 2000. Hein, et là, plutôt, c'était à Paris, dans les bistrots, qu'on appelait les bistrots Maillot, ça,
voilà, oui,
c'est
oui.
Ça, il y en a 5. Et là, j'ai continué à lire, à aller dans les archives et à confronter, en fait, toute la littérature, tous les éléments d'archives, mais aussi les discours des uns et des autres.
Vous avez rencontré Tassadit Yassine, qui a préfacé votre livre, ou en tout cas, vous connaissez ses travaux. Elle est anthropologue, hein,
bien sûr.
Une femme tout à fait intéressante et en profondeur, justement, sur l'anthropologie de la société algérienne, et Kabyle en particulier. Oui. Elle vous a aussi donné à comprendre, justement, à la fois les comportements, on va dire les mentalités, la pensée Kabyle, parce qu'il y a quelque chose de singulier, évidemment, dans les identités, qu'elles soient bretonne, occitane ou kabyle, régionale, il y a une identité particulière.
Tout à fait.
Vous l'avez observé, vous aussi?
Oui, tout à fait. Mais Tassadit Yassine, en fait, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, bien sûr, parce qu'elle c'est vraiment la spécialiste du monde berbère. Et c'est au Maghreb des Livres, en 2019, que je lui ai demandé si elle voulait bien préfacer mon écrit. Et au début, pour elle, c'était pas un travail universitaire, en ethnologie académique, on va dire. Et elle s'est intéressée, en fait, à mon écrit. Elle s'est intéressée, justement, à la manière dont j'ai pénétré via les femmes dans les maisons et dont elles m'ont fait confiance. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a accepté, donc, et qu'elle m'accompagne. Oui, je la vois régulièrement.
Parce que les femmes, elles ont du mal à se livrer, à raconter leur histoire. C'était les mères des élèves que vous aviez, que vous rencontriez, c'était des femmes dans le village en général. Une vous conduisait à une autre, vous aviez la confiance d'une, donc du coup, elle en parlait à d'autres et comme ça, oui, vous aviez un cercle.
C'était très curieux parce que en même temps, au collège, le directeur voyait d'un très mauvais œil en fait le fait que j'aille dans les familles. Il voyait d'ailleurs aussi d'un très mauvais œil le fait que mon mari et son copain aillent jouer au foot avec les infirmiers, etc. Enfin bon, et je me souviens lui avoir dit, mais moi, je suis pas venue en coopération là pour vivre entre Français. On est là au contraire pour rencontrer les gens. Et donc moi, en fait, ça se faisait comme ça. C'est on m'invitait, j'y allais. On m'invitait, j'y allais. Donc c'est pas tout le village, évidemment. On m'a dit, le directeur m'a dit qu'on me critiquait beaucoup parce que justement j'étais très libre, que je fréquentais des coureurs de jupons et que ça se faisait pas et qu'il y avait des gens qui étaient des langues de vipères, etc.
Donc on va revenir en fait, sur les langues de vipères. Voilà, il y a tout un chapitre là-dessus passionnant.
Oui, en fait, je saurais pas dire. Moi, j'allais juste. Je disais toujours oui. Et comme je terminais tôt, à 4 heures, comme j'avais une voiture, eh ben, on m'invitait. Et donc, la première, c'est Assina, donc celle que j'évoque abondamment dans le récit et que j'ai revue et que, avec qui je suis en lien, d'ailleurs, qui est en Espagne. Et puis après, les autres ont suivi. Et c'est par le biais des élèves. Et donc, après, c'était leur sœur, leur cousine, leur belle-sœur, leur mère, enfin, toutes les générations confondues, en fait, quelque part. Évidemment, avec les plus jeunes, c'était plus facile pour moi de parler, puisque je parlais français, elle parlait français. Mais avec les plus âgés, les jeunes élèves,
voilà,
elles me traduisaient en fait les propos de leurs aînés.
On va vous retrouver dans un instant. Dominique Martre est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. Nous parlons de la Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. C'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions Sans Nom et aux éditions Coucou en Algérie. On la retrouve très vite.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Dominique Martre est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche matin et elle vient de publier La Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. Ce livre a paru aux éditions Sans Nom et aux éditions Coucou en Algérie. Dans une première partie, nous avons fait connaissance avec vous, Dominique Martre, au travers votre rencontre avec la Kabylie. Vous y êtes enseignante et vous avez rencontré au plus près à la fois vos élèves, c'est sûr, mais aussi le village, on va le dire comme ça, les mères, les voisines et tout ce qui construit une société. Et justement, de cette société algérienne, au travers les femmes, vous y avez appris beaucoup pour vous construire aussi. On reçoit, mais on donne aussi. Comment ça s'est passé, cette relation? Elles vous racontent leur vie, vous racontez un peu la vôtre. Oui. C'est aussi comme ça que ça se passe. Sinon, pourquoi se raconter si on se raconte pas soi-même?
Elles étaient très curieuses, elles voulaient savoir effectivement...
Qu'est-ce que vous venez faire en Algérie?
Oui, c'est ça.
Pourquoi vous êtes venue?
Après, ça les intéressait toujours que je sois bretonne. Il y a toujours un parallèle qui est fait entre la Bretagne et la Kabylie. Oui, tout à fait. Mais elles voulaient savoir aussi pourquoi mon mari me laissait travailler, pourquoi j'enseignais, parce que là-bas, les femmes ne sortaient pas du tout.
On est dans les années 70, et ça, oui, on va le rappeler.
Et oui, et comme c'est un village de colonisation, traditionnellement, les femmes sortaient pas au moment de la colonisation, mais elles sortaient pas au moment où j'y étais non plus. Et donc, elles voulaient comprendre tout ça. Elles voulaient me voir, tout simplement. Elles étaient hyper chaleureuses, d'ailleurs. Et elles m'ont appris à danser, m'ont appris à rouler le couscous, etc. Elles étaient étonnées que je puisse conduire, que mon mari me laisse aller dans les maisons. Enfin, voilà. Donc, elles avaient toute cette curiosité. Et puis, elles me parlaient beaucoup, oui. Elles me parlaient volontiers d'elles-mêmes. Mais il y en a qui me disaient, ça fait longtemps que je veux te voir. Et qui se mettaient à me raconter, en fait, leur histoire. Je saurais pas expliquer comment ça s'est fait, parce qu'il me semble pas les avoir questionnés quelque part. C'est-à-dire, ça se faisait...
Elles se livrent naturellement.
Oui, tout à fait, parce que aussi ça leur faisait du bien de parler à une femme, je pense. Et en tout cas, dans les maisons où j'étais accueillie, il y avait pas de suspicion, il y avait vraiment de la confiance. Moi, ce qui m'a étonnée, j'étais d'un milieu breton où tout de même tout était calme et feutré. Au début, c'était la vitalité, mais aussi les cris. Des fois, comme je comprenais pas ce que les gens disaient, j'avais l'impression qu'ils s'engueulaient tout le temps, alors que du coup, non, on me disait non, on me rassurait, etc. Mais je trouvais joyeux. En fait, en même temps, les femmes, elles étaient dans les maisons, mais il y avait une énergie, une joie, des choses absolument extraordinaires que je vivais. Et puis, en même temps, bien évidemment, très vite, j'ai eu accès aussi à tout le reste. Et les jalousies, les tensions, les disputes, les drames, toutes les relations compliquées, parfois, entre belles-sœurs, entre belles-mères et belles-filles, etc.
Elle vous en vient de votre liberté? Elle rêvait d'émancipation, elle aussi?
Oui, elle rêvait d'émancipation. Elle le disait pas les plus anciennes, mais les plus jeunes, oui, tout à fait. Les plus jeunes, oui, avaient ce rêve-là, ce désir-là, bien évidemment. Mais c'était compliqué parce qu'il y avait quand même aussi un respect de la tradition. Et puis c'est vrai que quand dans les mariages, on les voyait danser entre elles, toute leur misère qu'elles racontaient par ailleurs n'était pas présente, quoi. Il y avait quelque chose de très fort. Et ça, quand même, dans mes amies algériennes, d'une manière générale, je le ressens tout le temps. Cette intimité des femmes, ce plaisir à être ensemble, cette joie, etc. Même quand on anime des formations, les stagiaires que j'ai eu en Kabylie, les femmes, elles sont hyper stimulantes, hyper curieuses, hyper voilà, pleines d'énergie, d'envie de savoir, d'apprendre, etc. Et ça, je l'ai trouvé, ouais.
Alors ça, c'est même en l'évoquant, vous êtes souriante et on voit bien ce souvenir à la fois joyeux et de rencontres avec ces femmes. Mais hors ce cercle de femmes, dans la société, avec les hommes, dans les espaces administratifs ou dans d'autres sphères de la société algérienne, comment vous étiez, vous sentiez-vous, vous?
Mais moi,
on accueillait bien les coopérants dans ces années-là,
oui,
je pense.
Mais je me suis trompée je me suis dit, en tant que jeune femme, je vais montrer aux hommes que on peut être quelqu'un de bien et travailler. Et c'était con idiot de ma part parce que, en fait, je me suis rendu compte que je demeurais la française et qu'on tolérait de moi, tout le monde disait oui, mais ça, c'est une française, c'est comme ça.
Elle peut le faire.
Donc, évidemment. Par contre, c'était très dur. C'est vrai que moi, j'en avais marre très très souvent d'être que dans ce milieu d'hommes-là. Je voyais pas de femmes, j'allais toute seule faire les courses, aller chercher mon pain, etc. Et moi, petit à petit, je savais qu'il y avait toutes les femmes qui étaient là dans les maisons. C'était difficile tout de même. Mais après, j'ai connu aussi d'autres univers parce que par le biais donc de mon mari et puis de mon ami François, qui était médecin aussi coopérant, j'allais avec eux donc dans les villages, dans les dispensaires de santé. Donc j'ai rencontré aussi des aides-soignantes, j'ai rencontré la population rurale aussi, et puis les infirmières qui, elles, étaient des étrangères, hein, parce qu'on était rapidement étrangers quelque part, c'est-à-dire qui n'étaient pas du village, en fait, dans les familles, même si elles étaient kabyles, étaient loin de là, et qui, elles aussi, vivaient mal.
Aussi, oui, ouais, absolument. Ouais. Vous le racontez très bien, justement, dans votre livre, parce que il y a un chapitre, elle se sent en prison d'ailleurs, où elle témoigne justement de, elles sont infirmières, mais faut pas travailler, donc il y a un jugement sur les infirmières, c'est quand même complètement fou ça. Il y a eu des jugements sur d'autres femmes qu'on disait de mauvaise vie, mais sur les infirmières, on en était à...
Ah oui, les aides-soignantes et les infirmières, c'est-à-dire que, en fait, moi je me souviens quand même que on avait un petit logement de fonction juste à côté de l'hôpital, du vieil hôpital, et donc je les côtoyais parce que elles étaient effectivement enfermées à l'étage, et on venait la nuit, par exemple, c'est un veilleur de nuit qui venait les chercher, qui les ramenait, etc. Et donc je les voyais passer, je discutais avec elles. Mais elles, en fait, elles étaient mal considérées. Ces métiers étaient mal considérés parce qu'il s'agissait du corps. Elles montraient leur corps, elles. Donc elles n'étaient pas voilées, hein. Elles étaient habillées. Elles étaient jolies en plus. Donc elles montraient leur corps et ça, c'était elles étaient très convoitées par les hommes. Les femmes, bien sûr, les critiquaient aussi. Mais aussi, elles s'occupaient.
Elles allaient voir les hommes. Elles allaient soigner des hommes.
Et voilà, elles allaient aussi avoir affaire avec le corps des hommes aussi. Ça, c'était la même chose. Et donc, c'était un métier, oui, qui était mal considéré, en fait. Et elles en souffraient complètement. Et donc, elles étaient, comme elles disaient, en prison, oui, tout à fait.
Et vous en avez revu quand vous êtes allé dans d'autres, on reviendra après dans une dernière partie de notre rencontre, sur ces retours que vous avez fait quelques années plus tard pour retrouver des élèves, des femmes que vous aviez rencontrées dans ces années-là. Mais ces femmes infirmières, vous en avez retrouvé?
Non, je n'ai pas retrouvé ces femmes. Je pense que elles sont comme elles n'étaient pas du village, elles sont parties après. Non, je n'ai plus eu de lien avec elles. Je n'ai eu de lien qu'avec les femmes que j'avais côtoyées Avec qui j'avais vraiment tissé des liens profonds, comme la famille de Hassina, par exemple.
Hassina, oui. Alors justement, dans un autre chapitre, donc dans une introduction, il y a une longue introduction historique, hein, on va l'appeler comme ça, mais assez vivante, hein, en même temps, mais qui nous donne des clés pour comprendre la société algérienne, et c'est ça qui est important. D'abord, il y a aussi quelques photos que vous aviez vous aussi là aussi dans vos tiroirs, mais qui illustrent voilà votre attachement à être aux côtés de ces femmes justement dans une fête. Je vois des femmes là, je vois des photos joyeuses, hein, un mariage. Il y a évidemment la cueillette des olives. Il y a ce quotidien de la société kabyle là qui illustre des vues du village. Voilà un petit portfolio photo qui est très, très très bien illustré de cette société kabyle. Dans les parcours aussi que vous avez que vous présentez, ce sont des femmes qui ont été importantes aussi dans votre vie, puisque c'est des femmes que vous avez revues après cette année passée, la première année dans les années 70, mais régulièrement vous êtes allé en Algérie.
Mais dès comment que j'ai très pu,
régulièrement,
en fait,
vous avez pu retourner en Algérie.
Oui, tout à fait. Donc pendant les années noires, j'ai été en relation avec plutôt les hommes et voilà, les femmes, il y avait peu d'ordinateurs à cette époque et puis il y avait pas de cybercafé, les femmes sortaient pas, donc c'était surtout les hommes. Donc j'ai eu des nouvelles des femmes. La première qui est venue, c'est Hassina. Elle est venue à Toulouse où j'habitais. Je l'ai accueillie avec ses deux plus jeunes enfants juste avant son émigration vers l'Espagne. Voilà. Après, moi, je suis repartie, j'ai travaillé, j'ai eu une mission pour l'ENA à Alger, et j'en ai profité pour dire à Sina, je voudrais absolument aller à Mcheddala. Donc, c'est une époque, il n'y avait pas d'hôtel, rien du tout. Donc, elle m'a dit, j'y serais pas, parce qu'elle travaillait dans une entreprise, de fruits et légumes. Je ne peux pas, mais je vais me débrouiller pour que ma famille t'accueille. Et donc, je suis retournée, et j'ai été accueillie par ses parents, qui étaient très âgés, les deux filles aînée qui n'avait pas pu partir en émigration, c'était un drame total pour elle, et qui étaient des jeunes filles, des jeunes adolescentes avec qui j'ai tissé des liens, et puis également son neveu que j'avais eu comme élève, enfin voilà, donc c'était quand même des années après.
Mais elles se souviennent bien de vous.
Bah, carrément, oui. Ouais. Et donc je les ai vues, alors après j'ai suivi tout le parcours de Hassina de près ou de loin, et puis en 2020 quand j'ai vraiment rédigé complètement mon livre, j'ai eu envie de la revoir pour revoir tout ça avec elle, parce que j'avais quand même ce scrupule, même si j'ai changé les noms des gens, de pas les mettre en difficulté quelque part.
On va vous retrouver dans un instant pour la suite de vos témoignages avec ces femmes que vous avez rencontrées. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Dominique Martre et nous parlons de la Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois Dominique Martre, elle est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. Nous parlons de la Kabylie en partage dans l'intimité des femmes. Un récit de ce long voyage. Je dis long voyage parce qu'il est un marqueur important dans votre vie, Dominique Martre. Commencé en 1970, 2020, la production, la restitution de ces voyages en Algérie, c'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, ça a suivi, accompagné toute ma vie finalement, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. Et j'avais aussi ce récit, roman, et puis ce projet de thèse qui n'a pas vu le jour parce que je travaillais trop et j'étais pas capable d'aller au bout de cela. Mais jusqu'à la fin, en fait, j'ai eu des découvertes fabuleuses, parce qu'il y a aussi Bachir qui m'a interpellé à un moment donné pour que je l'aide à écrire l'histoire de son père. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose de déterminant, je dirais même dans ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que je suis consultante, mais c'est vrai que j'ai vraiment favorisé vraiment les chantiers internationaux. C'est-à-dire que j'ai travaillé en Algérie dès que j'ai pu pour l'ENA, au Maroc avant, puis j'ai demandé si je peux aller en Algérie, et puis au Liban, en Égypte. Enfin, ça m'a donné aussi ce goût véritablement de la rencontre. Moi, je trouve très enrichissant. Vous parliez d'échanges, mais vraiment cette interculturalité, c'est fabuleux. On apprend
on
beaucoup.
On s'en grandit de belles rencontres
bien
comme
sûr,
ça.
Bien sûr. Et dans les rencontres au quotidien, mais aussi dans les rencontres professionnelles. Moi, à chaque fois, effectivement, les hommes et les femmes que je rencontre d'une autre culture m'apportent énormément. Donc, ça m'a donné vraiment à la fois le goût de l'écriture, mais aussi, en fait, cette envie de découverte d'autres cultures. Mais c'est vrai aussi pour l'Asie.
Bien sûr, on y reviendra sur ce second livre, Mon enfant en terre lointaine, une adoption ouverte. On poursuit avec la Kabylie en partage et avec justement ces rencontres. Et tout à l'heure, vous avez parlé de vipères. Vous avez parlé de ce que l'on vous disait quand le nid des vipères. Ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Quand vous alliez trop près des gens, il fallait se méfier. On vous disait tout ça.
Ben le directeur, mais qui était étranger et c'était assez compliqué en fait, qui était très rejeté. Parce qu'il s'était passé un scandale dans le collège, on avait fait appel à lui, etc. Lui me disait tout le temps, Maillot, c'est vraiment un nid de vipères. C'est toutes les langues de vipères. Enfin, lui, c'était toujours ça qu'il disait. Moi, c'est pas ça que j'entendais. C'était pas ça du tout que je côtoyais. Mais j'entendais qu'il y avait toujours... les gens parlaient facilement de cela, oui.
Ces femmes que vous avez rencontrées, c'est des femmes qui sont... tout à fait bavardes entre elles, mais bavardes au sens noble, je veux dire. Elles aiment bien se parler, vous le rappeliez, elles se retrouvent dans les fêtes, elles se retrouvent à échanger sur leurs histoires. Quand vous les entendiez, c'était ça résonnait en vous des histoires qu'elles vivaient. C'était pas les mêmes histoires que la vôtre, mais on dit très souvent que où que soient les femmes, quand elles sont combatives, on peut leur ressembler. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, même avec les femmes en Algérie, voilà. Quand il y a des avancées progressistes d'émancipation pour les femmes en Occident, les femmes du Sud, quand elles s'émancipent, ça réconforte ce que nous sommes, nous, ici, en Occident. Mais cet aller-retour, il est important aussi dans cette avancée, cette émancipation des femmes.
Oui, mais c'est vrai que bon, moi, par exemple, ne serait-ce que le fait de venir à Mchedala, c'était quelque chose qui était... enfin, ma mère voulait pas. Ma mère aurait pas voulu que je parte. Et puis, la famille de mon mari, c'était des pieds noirs. Eux aussi, ils voulaient pas. Et donc, moi, j'étais dans cette quête d'émancipation, évidemment. Donc, évidemment, je retrouvais ça aussi chez ces femmes et que j'avais envie aussi de les aider par rapport à ça. Parce qu'elles-mêmes, elles avaient envie de s'affranchir quelque part aussi des traditions qui étaient lourdes. À la fois, elles étaient dedans, elles avaient du respect pour leurs aînés, mais en même temps, elles avaient vraiment envie de vivre leur vie. Elles avaient envie aussi de choisir leur mari. Elles avaient aussi envie de faire des études. Voilà. Et donc, moi, je me sentais évidemment complètement contactée par ça. J'avais que 22 ans. Donc, on était très proches en âge, finalement, oui, oui. Quelque part. Et leur combat me semblait juste et bien sûr qu'il me faisait écho au mien d'une autre manière.
Voilà. Et Miassa, vous l'avez revue?
Alors Miassa, en fait, je l'avais pas rencontrée à Mchedala. C'était son mari qui était mon collègue, qui a été vraiment agréable parce que lui, il en a rien eu à faire des nids de vipères et de qu'on le traite de coureur de jupons. Il m'a aidé parce que moi, j'arrivais, j'avais beau avoir 2 ans d'ancienneté, arriver comme enseignante en Kabylie, c'est pas la même chose qu'en Bretagne. Et puis en outre, c'était un petit mini scandale quand même, c'est-à-dire que moi, quand j'arrivais, il y avait des hurlements. Enfin. Les élèves ont mis un paquet de temps, je ne parle même pas des enseignants égyptiens à l'époque, pour accepter que je sois là.
Française qui soit là.
Et oui, j'étais jeune, alors je faisais très attention à ne pas choquer sur le plan vestimentaire, etc. Mais néanmoins, c'était quand même quelque chose d'inédit. Lui m'a vraiment complètement aidée. Il était orphelin de père, il s'occupait de toutes ses sœurs. Enfin, c'était quelqu'un de très courageux et qui est resté un ami. Je l'ai vu il y a pas longtemps là. Et donc sa femme, par contre, qui était sa fiancée à l'époque, je ne la connaissais pas. Mais j'en avais entendu parler par mes élèves, justement à propos d'une fausse rumeur qui avait circulé dans le collège et qui avait été dévastatrice là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait accusé, voilà, hein, on avait en fait fait répandre une rumeur selon laquelle Miassa aurait été violée par un surveillant, en fait. Et ça avait mis évidemment tout le collège en émoi. Il y avait eu des faux témoignages, etc. C'était terrible. Et Miassa, je l'ai rencontrée en France après, quand elle avait émigré. Et elle avait cette belle colère dans les yeux. C'est une femme très belle et qui me disait, mais moi, je m'étais soumise, je n'avais pas parlé, je faisais attention parce que les filles étaient sous contrôle. Dès qu'il y avait des mauvaises notes ou un problème concernant leur réputation, on les virait du collège. Et j'étais honnête, j'ai tout accepté et puis finalement, on m'a accusée à tort. Et donc, quand j'ai vu ça, après, je me suis mise à leur parler et à me dire, jamais plus je ne me soumettrai. Donc, cette femme, évidemment, elle a émigré, elle a tout un parcours en France, etc., mais qui était très liée, en fait, à ce choc qu'elle a pu vivre et qui m'avait, moi, que je connaissais, sans la connaître elle, mais qui m'avait évidemment interpellée.
Dans l'intimité des femmes, c'est de cela que vous parlez justement quand elles, les femmes se livrent et vous racontent leur histoire. C'est depuis quelque temps que paraît ce livre. Il a été publié en Algérie aux éditions Coucou. Des femmes l'ont lu, ont eu écho de cette parution.
Alors, des femmes ont commencé à le lire. Déjà, mes personnages, que j'appelle mes personnages, Cassina l'a tout lu. Après, des femmes françaises l'ont lu. Pour l'instant, j'ai pas de retour, non, de femmes. Alors, il est pas encore paru. Il va paraître très prochainement aux éditions Coucou.
Ah, il est pas paru.
Voilà,
encore,
oui,
d'accord.
C'est ça.
Mais il paraîtra pour le salon du livre, sans doute, pour le salon international du livre Alger.
En principe. S'il a lieu. Oui, s'il a lieu au mois de mars, mais il devrait paraître là prochainement, en fait, ouais.
Alors, on va poser ce livre. Ça vous a fait du bien de le voir paraître, ce livre?
Oui.
C'est apaisant aussi? Enfin, alors, non pas que ça a été très compliqué. Je sens bien quelque chose d'heureux dans ce que vous racontez. Mais bon, c'est bien aussi c'est une histoire de transmission aussi.
Oui, c'est
parce que ce livre vous appartient plus, hein. C'est ce qu'on dit aux auteurs, hein.
Oui.
Une fois qu'il est paru, il est plus
ça,
à vous.
C'est
il est
ça.
Au lecteur.
Et j'ai eu peur, j'ai eu un moment de grand trac avant sa parution justement. J'ai eu un moment de grand, ça a accompagné toute ma vie. Le moment où on m'a dit ça y est, il va paraître. J'ai eu une peur, voilà, effectivement. Mais maintenant, je suis très contente, oui.
Écoutez, j'espère que les auditeurs, les auditrices auront eu plaisir de notre rencontre ce matin et vous découvriront parce que vous serez au Maghreb des Livres à Paris en février.
Oui.
Beurre FM est partenaire de cette organisation, oui, de ce grand salon du livre à l'Hôtel de Ville de Paris. On aura l'occasion d'y revenir. J'ai aussi devant moi ce livre précédent qui est sur toute une autre thématique mais qui vous tient aussi à cœur, qui s'appelle Mon enfant en terre lointaine, une adoption ouverte. Vous nous en dites quelques mots?
Oui, mais c'est dans le même esprit que ce que j'ai dit. C'est que, en fait, quand on a adopté, mon mari et moi, notre enfant, qui est vietnamien, en fait, on avait déjà 4 enfants en partage ensemble. Et on avait vraiment le souci qu'il il ait une trace de son histoire. Pour nous, c'était impossible qu'en fait, il ne sache pas d'où il venait, etc. Et moi, j'ai rencontré, au moment où je suis allée seule pour l'adopter, quand il avait 10 mois, moi, j'ai rencontré sa maman, son frère, ses grands-parents, tout le village. Et la maman m'a demandé si je voulais bien aller dans le village. Et moi, je me suis retrouvée comme dans un village kabyle. J'ai dit oui, bien sûr. Et on a tissé des liens, on a gardé ces liens. Et adoption ouverte, ça veut dire justement quand il y a des liens forts entre la famille biologique et la famille d'adoption.
Oui.
Et nous, enfin, Anaël, là, ce livre, en fait, il avait 9 ans quand il a demandé à voir toute sa famille. Il avait un trac inouï, mais c'est vraiment, ça a été bouleversant pour lui. Et il a compris qu'on l'aimait. Et plusieurs fois, on est retourné avec lui au Vietnam.
Oh. Belle histoire, bel engagement que vous avez, Dominique Martin, en vous entendant. On voit votre intérêt pour l'autre, pour construire une vie en partage, justement. Il y a la cabine en partage, mais il y a la vie en partage dans cette histoire-là racontée. Et dans ce livre, la Kabylie en partage. Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM nous raconter cette histoire.
Merci beaucoup.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.